secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'histoire du tennis espagnol, de Manuel Santana à Rafael Nadal. Les Espagnols sont bons sur terre battue, ils naissent dessus. Leur jeu est basé sur une technique de jeu de jambes. La domination espagnole s'appuie surtout sur les camps d'entraînement, les académies. Le tennis fut un des sports portés par le régime franquiste. Les clubs de tennis perpétuent le sport bourgeois par excellence, les personnes traitant leurs affaires d'immobilier ou d'argent en jouant au tennis. Le tennis espagnol s'adapte aussi aux nouvelles règles, à l'image de Juan Antonio Samaranch, phalangiste en 1968, ambassadeur à Nurs de 1977 à 1980, élu ensuite au CIO et porteur des Jeux Olympiques de Barcelone 1992. Le sport espagnol s'appuyant essentiellement sur le tennis, le football, le cyclisme et le sport automobile. Nadal est une synthèse de tout cela. Retour en arrière. Au début de l'histoire, il y a Manuel Santana, Manolo Santana. Il est né le 10 mai 1938 à Madrid, dans une famille modeste. Son père décède lorsqu'il a 16 ans. Il devient par hasard un ramasseur de balles au club tennis de Velázquez à Madrid, afin de gagner de l'argent pour sa famille. Ayant abandonné l'école à l'âge de 10 ans, il passe le plus clair de son temps à taper des balles avec d'autres jeunes de son âge dans ce même club. Il y rencontre un riche entrepreneur de Madrid, Romero Rirón, qui remarque son talent naissant et devient son mécène, lui permettant d'accéder aux principaux tournois. Il s'est imposé à Roland-Garros en 1961 et 1964, chaque fois devant l'Italien Nicola Pietrangeli. Il est mort le 11 décembre 2021 à Marbella. À l'opposé socialement est Andrés Gimeno, né le 3 août 1937 à Barcelone. Son père est professeur de tennis, il lui donne ses premiers cours au Real Club du tennis de Barcelone. Il s'impose à Roland-Garros en 1972, à 34 ans, battant en finale le Français Patrick Poissy. Il prend sa retraite en 1973, diminué par une blessure, et fonde l'année suivante le club de tennis Andrés Gimeno, situé à Castelldefels, académie qui formera de nombreux joueurs espagnols, tels que Arantxa Sánchez, Alex Gorreja. Il est mort en 2019. Manuel Orantes est né le 6 février 1949 à Grenade, en Andalousie. Avec Santana, il forme la paire de l'équipe d'Espagne du Coupe Davis dans les années 1970. En 1975, il remporte l'US Open à Forest Hill en battant en finale la tête de série numéro 1, Jimmy Connors. Ce sera son unique titre de Grand Chelem, puisqu'il avait perdu auparavant la finale des Internationaux de France de tennis en 1974 face à Björn Borg. En 1989, une Espagnole de 17 ans s'impose à Roland-Garros en battant la grande favorite, l'Allemande Steffi Graf. Arantxa Isabel Maria Sánchez Vicario, dite Arantxa Sánchez, est née le 18 décembre 1971 à Barcelone. Elle découvre le tennis à l'âge de 4 ans quand elle suit ses deux frères aînés, Emilio et Javier, à l'entraînement. Ses parents investissent beaucoup sur elle, la vie par procuration des parents. Elle décroche son deuxième Roland-Garros en 1994, en battant la Française Marie Pierce, et son troisième en 1998 face à Monica Seles. Éternelle dauphine de Monica Seles et de Steffi Graf, elle n'en avait pas moins remporté quelques 29 titres en simple et 69 en double, ce qui fait d'elle une des joueuses les plus récompensées depuis le début des années 1970. Elle est aujourd'hui directrice du tournoi féminin de Barcelone. Arantxa Sánchez est la première grande joueuse de tennis espagnole. Les femmes espagnoles, qui avaient obtenu en 1931 le droit de vote et une grande émancipation, font un grand retour en arrière avec la période franquiste des années 1950-1960. En 1993 et 1994, Sergi Bruguera s'impose à Roland-Garros. Il atteint une troisième finale à Roland-Garros en 1997, battu par le Brésilien Gustavo Kuerten. Il est né le 16 janvier 1971 à Barcelone. Son père dirige l'Académie de tennis de Barcelone. Après avoir été l'entraîneur de Richard Gasquet et capitaine de l'équipe d'Espagne de Coupe Davis, il est actuellement l'entraîneur d'Alexander Zverev depuis 2022. Sergi Bruguera joue un rôle de pionnier pour les joueurs de tennis espagnols puisque nombreux sont ceux qui s'imposeront ensuite également aux internationaux de France de tennis. Carlos Moya, Albert Costa, Juan Carlos Ferrero. En 1998, la finale se dispute entre deux Espagnols, Carlos Moya et Alex Correia. Et c'est Carlos Moya qui l'emporte. Il est né le 27 août 1976 à Palma de Majorque. Bien qu'il joue avec la main droite, il est naturellement gaucher, ce qui est l'exact inverse de son ami Rafael Nadal. La finale de l'édition 2002 est une nouvelle fois une finale qui oppose deux joueurs espagnols. Albert Costa s'impose contre Juan Carlos Ferrero. Il est né le 23 juin 1975 à Lérida, en Catalogne. Costa est devenu directeur sportif de la Fédération espagnole de tennis après avoir mené l'Espagne à des victoires en Coupe Davis. En 2003, à Roland-Garros, victoire de Juan Carlos Ferrero, qui est né le 12 février 1980 à Ontinyent, près de Valence. 2003, c'est son année. Il est numéro 1 mondial pendant 8 semaines. Il a également remporté 3 fois la Coupe Davis avec l'équipe d'Espagne en 2000, 2004 et 2009. Et il est à ce jour un des rares joueurs à avoir battu Rafael Nadal sur terre battue après l'éclosion du Majorquin au plus haut niveau. Il a fait construire une académie de tennis près de Valence. Nous terminerons par le phénomène Rafael Nadal. À ce jour, 37 ans, 22 titres du Grand Chelem, 209 semaines numéro 1 mondial et vainqueur de 7 des 9 Masters 1000. Il est né le 3 juin 1986 à Manacor, sur l'île de Majorque, en Espagne. Il a une sœur de 5 ans, sa cadette. Tony Nadal, un autre de ses oncles, est son entraîneur depuis son plus jeune âge. Dès son plus jeune âge, Rafael Nadal pratique différents sports comme le football ou le basketball, mais c'est le tennis qu'il pratique dès ses 3 ans qui révèle son potentiel sportif. Lorsqu'il avait 14 ans, la Fédération espagnole de tennis lui a demandé de quitter sa ville natale pour déménager à Barcelone dans le but de poursuivre son entraînement. La famille de Nadal a refusé, en partie parce qu'elle craignait pour son enseignement, mais aussi parce que Tony Nadal pensait qu'il n'était pas nécessaire que son neveu quitte la maison pour s'améliorer. La décision de rester à la maison a conduit la fédération à revoir à la baisse son appui financier. Le père du joueur a donc fourni les fonds non offerts par la fédération espagnole. Sur les 22 titres du Grand Chelem, il compte 14 victoires à Roland-Garros. En 2005, pour sa première participation à Roland-Garros, Rafael Nadal remporte le titre, battant en finale l'Argentin Mariano Puerta. C'est le début de l'ère Nadal. En 2006, 2007, 2008, Nadal bat en finale le Suisse Federer, alors numéro 1 mondial. En 2008, il remporte Wimbledon et la médaille d'or olympique, ainsi qu'une deuxième Coupe Davis. En 2009, Federer parvient cependant à remporter le seul titre du Grand Chelem qui lui manquait en s'imposant face au surprenant Suédois Robin Söderling, tombeur de Nadal en huitième de finale. En 2009, c'est le premier sacre à l'Open d'Australie et la troisième Coupe Davis pour Nadal. En 2010, Nadal prend sa revanche à Roland-Garros sur Robin Söderling. C'est son deuxième titre à Wimbledon et son premier titre à l'US Open. En 2011, pour la quatrième fois, Nadal bat Federer en finale de Roland-Garros et réalise le sextuplé, égalant ainsi le record de Björn Borg, qui date de 30 ans. En 2012, Nadal gagne pour la septième fois le titre face à Novak Djokovic. En 2013, après avoir battu le numéro 1 mondial Djokovic en demi-finale, Nadal remporte Roland-Garros pour la huitième fois en battant son compatriote David Ferrer en finale. En 2014, pour la seconde fois, Rafael Nadal bat en finale son rival, Novak Djokovic. Les années 2015 et 2016 voit de nouveaux vainqueurs du trophée de Roland-Garros. En 2015, le défenseur du titre, Nadal, perd en quart de finale face au numéro 1 mondial Djokovic, qui est lui-même battu en finale par le Suisse Stanislas Wawrinka. En 2016, Nadal déclare forfait la veille de son match du troisième tour face à Marcel Granollers. L'Espagnol quitte le tournoi parisien en raison de son poignet gauche trop douloureux pour continuer. Novak Djokovic en profite et remporte le tournoi en battant en finale l'Écossais Andy Murray. En 2017, Nadal est de retour à Paris et remporte à nouveau le tournoi face à Wawrinka en finale, décrochant ainsi son 10e titre. Il décroche aussi son 3e US Open. En 2018 et 2019, il gagne facilement la finale de Roland-Garros face à l'Autrichien Dominic Thiem. Il remporte en 2019 son 4e US Open et sa 5e Coupe Davis. Avec son 12e succès à Roland-Garros en 2019, il devient le premier joueur, homme et femme confondus, depuis les débuts du tennis et l'apparition des tournois majeurs à partir de la fin du 19e siècle, à avoir remporté 12 fois un même titre du Grand Chelem. Avant cet exploit, seul Margaret Court avait réussi à faire aussi bien dans un autre tournoi, en s'imposant 11 fois à l'Open d'Australie. En 2020, Nadal remporte en septembre le tournoi de Roland-Garros pour la 13e fois, en battant Novak Djokovic en finale. Il remporte son 20e titre du Grand Chelem et égale le record de Roger Federer. En 2021, après avoir éliminé Nadal en demi-finale, Djokovic bat Tsitsipas en finale pour s'adjuger son 10e titre du Grand Chelem et revenir à une longueur de Nadal et Federer. Rafael Nadal remporte l'édition 2022 de Roland-Garros en simple pour la 14e fois en disposant en finale du Norvégien Casper Ruud. Il gagne en 2022 son 2e Open d'Australie. En 2023, Rafael Nadal est toujours blessé et annonce son forfait pour Roland-Garros. Une absence pour encore plusieurs mois et une probable retraite en 2024. Ces forfaits feront redescendre l'Espagnol au-delà de la 100e place mondiale, une première depuis avril 2003. La première caractéristique du jeu de Nadal est son lift et sa défense. En effet, ses balles jouées en coup droit reviennent très vite vers le sol et rebondissent très haut après le rebond, ce qui lui permet une grande marge de manœuvre, contrairement à la plupart des joueurs qui ont une frappe plus plate, plus puissante, mais aussi plus sujette aux fautes directes. La seconde est d'être gaucher au tennis. Effectivement, les gauchers posent souvent problème aux droitiers, que ce soit sur le service, les balles reviennent sur le corps à cause de l'effet de gauche à droite, ou dans le jeu, le coup droit croisé de gaucher de Nadal arrive sur le revers de son adversaire. La troisième caractéristique de son jeu est son service. L'effet qu'il met dans ses frappes peut lui permettre de faire des axes, même à 160 km/h. Rafael Nadal a hérité de bonnes qualités physiques. Au repos, son cœur bat 60 pulsations par minute. En match, il atteint 180 et jusqu'à 200 en cas d'effort très intense. Ses résultats au Ted Bosco, évaluation de la force, et plus particulièrement de la force des jambes, montrent une puissance au-dessus de la moyenne des joueurs du circuit. Sa vitesse de course peut atteindre celle d'un sauteur en longueur et son endurance, celle d'un coureur cycliste ou d'un marathonien, ce qui explique en partie sa résistance à l'effort.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.